Ben, j'espérais vous dire, ben, voilà, vous êtes installé bien assis dans une belle salle. Bon, c'est pas encore idéal. Hein. Bon, alors donc, ce que j'avais essayé de faire la dernière fois, c'était une sorte d'adieu à la théorie de la souveraineté en tant qu'elle peut, en tant qu'elle a pu, se présenter comme méthode d'analyse des rapports du pouvoir. Je voulais vous montrer que le modèle juridique de la souveraineté n'était pas, je crois, adapté à une analyse concrète de la multiplicité des rapports de pouvoir. Et au fond, pourquoi, je voudrais résumer ça en trois mots exactement. Il me semble que la théorie de la souveraineté entreprend nécessairement de constituer ce qu'on appellerait, si vous voulez, un cycle, le cycle du sujet au sujet, c'est-à-dire qu'elle entreprend de montrer comment un sujet entendu comme individu doté naturellement ou par nature de droits, de capacités, etc., peut et doit devenir sujet, mais sujet cette fois entendu comme élément assujetti dans un rapport de pouvoir. La souveraineté, c'est la théorie qui va du sujet au sujet, qui établit le rapport politique du sujet au sujet. Deuxièmement, il me semble que la théorie de la souveraineté se donne au départ une multiplicité de pouvoirs qui ne sont pas des pouvoirs au sens politique du terme, qui sont des capacités, des possibilités, des puissances, mais qu'elle ne peut les constituer comme pouvoirs au sens politique du terme qu'à la condition d'avoir établi entre-temps, entre, si vous voulez, les possibilités et les pouvoirs, un moment d'unité fondamentale et fondatrice, qui est l'unité du pouvoir, que cette unité du pouvoir prenne le visage du monarque ou la forme de l'État, peu importe, c'est cette unité du pouvoir qui va, c'est à partir de cette unité du pouvoir que vont dériver les différentes formes, aspects, mécanismes, institutions de pouvoir, la multiplicité des pouvoirs, entendu comme pouvoir politique, ne peut être établie et ne peut fonctionner qu'à partir de cette unité du pouvoir établie, fondée par la théorie de la souveraineté. Enfin, troisièmement, il me semble que la théorie de la souveraineté montrer comment un pouvoir peut se constituer non pas exactement selon la loi, mais selon une certaine légitimité fondamentale, légitimité plus fondamentale que toutes les lois, mais qui est une sorte de loi générale de toutes les lois, de loi qui peut permettre aux différentes lois de fonctionner comme loi. Autrement dit, la théorie de la souveraineté, c'est le cycle du sujet au sujet, c'est le cycle du pouvoir et des pouvoirs, c'est le cycle de la légitimité et de la loi. Disons en gros que, d'une manière ou d'une autre, et selon évidemment les différents schémas théoriques dans lesquels elle se déploie, me semble que, de toute façon, la théorie de la souveraineté présuppose le sujet, elle vise à fonder l'unité essentielle du pouvoir, et enfin, elle se déploie toujours dans l'élément préalable de la loi. Stricte primitivité donc, celle du sujet à assujettir, celle de l'unité du pouvoir à fonder et celle de la légitimité à respecter. Sujet, unité du pouvoir et loi, voilà je crois les éléments entre lesquels joue la souveraineté, qui à la fois, la théorie de la souveraineté qui à la fois se les donne et cherche à les expliquer. Bon, alors si mon projet, mais je l'abandonne tout de suite, mon projet c'était de vous montrer que la théorie, en tout cas cet instrument que l'analyse politico-psychologique s'est donnée depuis maintenant trois quarts de siècle bientôt, c'est-à-dire la notion de répression, J'aurais voulu vous montrer comment cette notion, qui a l'air comme ça, disons, beaucoup plutôt empruntée au marteau, au freudisme, au freudisme, au marxisme, enfin, peu importe, j'aurais voulu vous montrer comment cette théorie de la répression était en fait, s'inscrivait en fait dans un déchiffrement du pouvoir qui se faisait en termes de souveraineté. Bon, enfin, ça nous aurait amené à revenir, ça m'aurait amené à revenir sur des choses déjà dites, alors si vous voulez, je passe, quitte à la fin de l'année à revenir là-dessus s'il reste du temps. Bon. Alors, le projet général, celui des années précédentes, celui de cette année, c'est de faire quoi? Bon. Eh bien, c'est d'essayer d'enterrer, enfin de desserrer plutôt cette analyse du pouvoir, l'affranchir de ce triple préalable du sujet, de l'unité et de la loi, et de faire ressortir, plutôt que cet élément fondamental de la souveraineté, faire ressortir ce que j'appellerais plutôt les rapports ou les opérateurs de domination. Au lieu de faire dériver les pouvoirs de la souveraineté, il s'agirait beaucoup plutôt d'extraire historiquement et empiriquement des rapports de pouvoir les opérateurs de domination. Théorie de la domination, des dominations, si vous voulez, plutôt que théorie de la souveraineté, ça veut dire ceci, ça veut dire donc, d'abord, plutôt que de partir du sujet ou même des sujets, plutôt que de partir de ces éléments qui seraient préalables à la relation, ou qui composeraient une totalité, il s'agirait de partir de la relation même de pouvoir, de la relation de domination dans ce qu'est là de factuel, d'effectif, et de voir comment c'est cette relation elle-même qui détermine les éléments sur lesquels elle porte. Ne pas donc demander au sujet comment, pourquoi, au nom de quel droit ils peuvent accepter de se laisser assujettir, mais montrer comment ce sont les relations d'assujettissement effectif qui fabriquent des sujets. Deuxièmement, il s'agirait de faire ressortir des rapports de domination et de les laisser valoir dans leur multiplicité, dans leur différence, dans leur spécificité ou leur réversibilité, ne pas chercher par conséquent une sorte de souveraineté source des pouvoirs, mais au contraire, montrer comment les différents opérateurs de domination s'appuient les uns sur les autres, renvoient les uns aux autres, dans un certain nombre de cas se renforcent et convergent, dans d'autres cas se minent, tendent à s'annuler. Quand je dis ça, je ne veux pas dire, bien sûr, qu'il n'y a pas, ou qu'on ne peut ni atteindre, ni décrire des grands appareils de pouvoir, mais je crois que les grands appareils de pouvoir fonctionnent toujours sur la base de ces dispositifs de domination. Si vous voulez, concrètement, on peut bien sûr décrire l'appareil scolaire, ou l'ensemble des appareils d'apprentissage dans une société donnée, bien sûr, mais je crois qu'on ne peut les analyser efficacement que si on ne les prend pas comme unité globale, si on n'essaie pas de les dériver directement de quelque chose qui serait l'unité étatique de souveraineté, mais si on essaie de voir comment ils jouent, comment ils s'appuient, comment cet appareil définit un certain nombre de stratégies globales à partir d'une multiplicité d'assujettissements qui sont l'assujettissement de l'enfant à l'adulte, de la progéniture aux parents, de l'ignorant au savant, de l'apprenti au maître, de la famille à l'administration, etc. Ce sont tous ces mécanismes, tous ces opérateurs de domination qui sont, je crois, le socle effectif de cet appareil global que constitue l'appareil scolaire. Donc, si vous voulez, envisager les structures de pouvoir comme des grandes structures de pouvoir comme des stratégies globales qui traversent, qui utilisent des tactiques locales de domination. Enfin, troisièmement, faire ressortir les rapports de domination plutôt que la source de souveraineté, ça voudra dire ne pas essayer de les suivre dans ce qui constitue leur légitimité fondamentale, mais essayer au contraire de chercher des instruments techniques qui permettent de les assurer. Donc, pour résumer ceci, et pour que l'affaire soit au moins provisoirement, je ne dis pas close, mais à peu près claire, plutôt que le triple préalable de la loi, de l'unité et du sujet, qui fait de la souveraineté la source du pouvoir et le fondement des institutions, bien je crois qu'il faut prendre le triple point de vue des techniques, de l'hétérogénéité des techniques et de leurs effets là-dessus, qui font des procédés de domination la trame effective des relations de pouvoir et des grands appareils de pouvoir. La fabrication des sujets plutôt que la genèse du souverain. Voilà, si vous voulez, le thème général. Et alors maintenant, s'il est bien clair que ce sont les rapports de domination qui doivent être le chemin d'accès à l'analyse du pouvoir, eh bien, comment est-ce que l'on peut mener cette analyse des rapports de domination, si c'est vrai que c'est la domination et pas la souveraineté, ou plutôt les dominations, les opérateurs de domination, et non pas la souveraineté qu'il faut étudier, eh bien, comment est-ce qu'on peut faire et comment est-ce que l'on peut avancer dans ce chemin des rapports de domination. Rapports de domination, en quoi est-ce que ceci peut se ramener ou se rabattre sur la notion de rapport de force? En quoi et comment le rapport de force peut se ramener à un rapport de guerre? Voilà, si vous voulez, l'espèce de première question préalable que je voudrais un petit peu envisager cette année. Est-ce que la guerre peut effectivement valoir comme analyse des rapports de pouvoir et comme matrice des techniques de domination? Vous me direz, mais on ne peut pas, d'entrée de jeu, confondre rapports de force et relations de guerre, bien sûr, mais je prendrai ceci, si vous voulez, simplement comme cas extrême, dans la mesure où la guerre peut passer comme le point de tension maximum, la nullité même des rapports de force. Le rapport de pouvoir, est-ce qu'il est en son fond un rapport d'affrontement, de lutte à mort, de guerre, sous la paix, sous l'ordre, la richesse, l'autorité, sous l'ordre calme des subordinations, sous l'État, les appareils de l'État, des lois, etc., faut-il entendre et redécouvrir une sorte de guerre primitive et permanente? C'est cette question-là que je voudrais poser comme ça, d'entrée de jeu, sans méconnaître toute la série des autres questions qu'il faudra bien aborder, j'essaierai d'aborder les années suivantes, et parmi lesquelles on peut simplement citer comme ça à titre de premier repérage. Est-ce que, effectivement, le fait de la guerre peut et doit être considéré comme premier par rapport à d'autres relations qui seraient des relations d'inégalité, des dissymétries, des divisions du travail, rapports d'exploitation, etc. On pourrait se poser aussi la question, il faudra bien se la poser, est-ce que des phénomènes d'antagonisme, de rivalité, d'affrontement, de lutte entre individus ou entre groupes ou entre classes, est-ce que tous ces phénomènes-là peuvent et doivent être regroupés dans ce mécanisme général, dans cette forme générale que serait la guerre? Il faudrait encore se poser la question, est-ce que les notions qui sont dérivées de ce qu'on appelait au 18e ou au 19e encore l'art de la guerre, est-ce que ces notions dérivées de l'art de la guerre, de la stratégie, de la tactique, etc., est-ce qu'elles peuvent en elles-mêmes constituer un instrument valable et suffisant pour analyser les relations de pouvoir? On pourrait se demander, il faudra se demander aussi, est-ce que les institutions militaires, et d'une façon générale, tous les procédés qui sont mis en œuvre pour mener la guerre, est-ce que ces institutions militaires et les pratiques qui les entourent sont de près ou de loin, directement ou indirectement, le noyau des institutions politiques? Enfin, et ça serait alors là la question première que je voudrais étudier cette année, ça serait celle-ci. Comment, depuis quand et pourquoi, est-ce qu'on a commencé à percevoir ou à imaginer que c'est la guerre qui fonctionne sous et dans les relations de pouvoir. Depuis quand, comment, pourquoi est-ce qu'on a imaginé qu'une sorte de combat ininterrompu travaille la paix et que finalement l'ordre civil est en son fond, en connaissance, en ses mécanismes essentiels, un ordre de bataille. Qui a imaginé que l'ordre civil était un ordre de bataille? Bon, eh bien, cette question que je voudrais poser cette année, qui a perçu la guerre au filigrane de la paix, qui a cherché dans le bruit et dans la confusion de la guerre, qui a cherché dans la boue des batailles le principe d'indivisibilité de l'ordre, de l'État, de ses institutions politiques? Bon, c'est cette question-là donc que je vais essayer de suivre un peu dans les cours qui vont suivre, et peut-être jusqu'à la fin de cette année. Au fond, la question, on pourrait la poser très simplement, et c'est d'abord comme ça que je me l'étais posée à moi-même, qui au fond a eu l'idée de retourner le principe de Clausewitz, qui a eu l'idée de dire, il se peut bien que la guerre, ça soit la politique menée par d'autres moyens, mais est-ce que la politique n'est pas elle-même la guerre menée par d'autres moyens? Or, je crois que le problème n'est pas tant de savoir qui a retourné le principe de Clausewitz, mais le problème, ce serait plutôt de savoir quel était le principe que Clausewitz a retourné, ou qui plutôt a formulé ce principe que Clausewitz a retourné quand il a dit « Mais après tout, la guerre, ce n'est que la politique française. » Car je crois que le fait, que le principe que la politique, c'est la guerre continuée par d'autres moyens, ce principe était bien en guerre à Clausewitz. Et Clausewitz a retourné une sorte de thèse à la fois diffuse et précise qu'il avait trouvée dans le... qui circulait depuis le 17e et le 18e siècle. Bon. La politique, guerre continuée par d'autres moyens. Il y a dans cette thèse, dans l'existence de cette thèse, et dans l'existence préalable à Clausewitz de cette thèse, donc il y a tout de même une sorte de paradoxe historique. En effet, on peut dire comme ça, schématiquement, un peu grossièrement, que avec la croissance, le développement des États tout au long du Moyen-Âge et au sein de l'époque moderne, eh bien, tout au long de ce développement, on a vu les pratiques et les institutions de guerre subir une évolution très marquée, très caractéristique, très visible, évolution qu'on peut caractériser ainsi. Les pratiques et les institutions de guerre, eh bien, d'abord, elles se sont concentrées de plus en plus entre les mains d'un pouvoir central. Petit à petit, il est devenu de fait et de droit que seuls les pouvoirs étatiques pouvaient engager les guerres et pouvaient manipuler les instruments de la guerre. Étatisation par conséquent de la guerre, du même coup. Par le fait de cette étatisation, eh bien, se sont trouvés effacés du corps social, du rapport d'homme à homme ou de groupe à groupe, ce qu'on pourrait appeler la guerre quotidienne, ce qu'on appelait effectivement la guerre privée. De plus en plus, les guerres, les pratiques de guerre, les institutions de guerre tendent à ne plus exister en quelque sorte aux frontières, aux limites extérieures des grandes unités étatiques, comme un rapport de violence effective ou menaçante entre États, mais que petit à petit, le corps social tout entier a été nettoyé de ces rapports belliqueux qui les traversaient incessamment pendant la période médiévale. Enfin, je crois que par cette étatisation, par le fait que la guerre a été en quelque sorte une pratique qui ne fonctionnait plus qu'aux limites extérieures de l'État, elle a tendu à devenir l'apanage professionnel et technique d'un appareil militaire soigneusement défini et contrôlé. ça a été en gros l'apparition de l'armée comme institution, qui au fond n'existait pas comme telle au Moyen-Âge. C'est simplement à la sortie du Moyen-Âge qu'on voit émerger un État doté d'institutions militaires. Enfin, si vous voulez, l'institution militaire est venue se substituer à la pratique quotidienne et globale de la guerre. Un État doté d'institutions militaires s'est substitué à une société traversée perpétuellement de rapports directs. Bon. Évolution donc sur laquelle il faudra revenir, mais enfin qu'on peut admettre comme ça au moins à titre de première hypothèse historique. Or, où est le paradoxe? Le paradoxe, c'est qu'au moment même de cette transformation, ou peut-être aussitôt après cette transformation, lorsque la guerre se fut trouvée expulsée aux limites de l'État, à la fois centralisée dans sa pratique et refoulée à sa frontière, eh bien voilà qu'un certain discours est apparu, un discours étrange, un discours nouveau. Nouveau parce que je crois d'abord que c'est le premier discours historico-politique sur la société et qui s'est trouvé, je crois, très différent du discours philosophico-juridique que l'on avait l'habitude de tenir jusque-là. Et ce discours historico-politique qui apparaît à ce moment-là, ce discours est en même temps un discours sur la guerre entendue comme relation sociale permanente, la guerre entendue comme fond ineffaçable de tous les rapports et de toutes les institutions de pouvoir. La date de naissance de ce discours historico-politique sur la guerre comme font les rapports sociaux, eh bien ce discours, quand est-ce qu'il apparaît? D'une façon très symptomatique. Il apparaît, je crois, j'essaierai de vous le montrer, il apparaît après la fin des guerres civiles et religieuses du XVIe siècle. Ce n'est donc pas du tout comme enregistrement ou analyse des guerres civiles du XVIe siècle que ce discours apparaît. En revanche, il est déjà, sinon constitué, du moins clairement formulé, au début des grandes luttes politiques anglaises du XVIIe siècle, au moment de la révolution bourgeoise anglaise, et on le verra ensuite apparaître en France à la fin du XVIIe siècle, à la fin du règne de Louis XIV, dans d'autres luttes politiques, qui sont en gros les luttes d'arrière-garde de l'aristocratie française contre l'établissement de la grande monarchie absolue et administrative. Discours donc, vous le voyez, immédiatement ambigu, puisque d'un côté, il a été un des instruments de lutte, de polémique, d'organisation politique en Angleterre contre le pouvoir instrument de lutte des groupes politiques bourgeois, petits bourgeois, éventuellement populaires même, contre la monarchie absolue, et aussi un discours aristocratique contre cette même monarchie. Discours dont les titulaires ont eu des noms souvent obscurs et en même temps hétérogènes, puisqu'on y trouve, si vous voulez, des gens comme Edward Coke ou Lilburn en Angleterre, représentant des mouvements populaires. On y trouve également des noms comme celui de Boulainvilliers, de Fréret ou de ce gentilhomme du Massif central qui s'appelait le comte d'Estaing en France. Il a été repris ensuite par Sieyès, mais également par de Narossi. Vous le trouvez chez Augustin Thierry, vous le trouvez chez Courtet, et finalement, vous allez le retrouver chez des biologistes, racistes, eugénistes, etc., de la fin du XIXe siècle. Discours sophistiqué, discours savant, discours érudit, discours tenu par des gens aux yeux et aux doigts de poussière, mais également discours, vous le verrez, qui a certainement un nombre immense de locuteurs populaires et amis. Ce discours, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, je crois qu'il dit ceci. Contrairement à ce que dit la théorie philosophico-juridique, le pouvoir politique ne commence pas quand cesse la guerre. L'organisation, la structure juridique du pouvoir des États, des monarchies, des sociétés, n'a pas son principe là où cesse le bruit des armes. La guerre n'est pas conjurée. D'abord, bien sûr, la guerre a présidé à la naissance des États. Le droit, la paix, les lois sont nés dans le sang et la boue des batailles. Mais par là, il ne faut pas entendre des batailles idéales, des rivalités telles que les imaginent les philosophes ou les juristes. Il ne s'agit pas d'une sorte de sauvagerie théorique. La loi ne naît pas de la nature auprès des sources que fréquentent les premiers bergers. La loi naît de batailles réelles, de victoires, de massacres, de conquêtes qui ont leurs dates et leurs héros d'horreur. La loi naît des villes incendiées, des terres ravagées. Elle naît avec les fameux innocents, vous savez, qui agonisent dans le jour qui se lève. Mais cela ne veut pas dire que la société, la loi et l'État soient comme l'armistice dans ces guerres, ou la sanction définitive des victoires. La loi n'est pas pacification, car sous la loi, la guerre continue à faire rage, elle fait rage à l'intérieur de tous les mécanismes de pouvoir, mais elle n'est plus régulée. C'est la guerre qui est le moteur des institutions et de l'ordre. La paix, dans le moindre de ces rouages, c'est sourdement la guerre. Autrement dit, il faut déchiffrer la guerre sous la paix. La guerre, c'est le chiffre même de la paix. Troisièmement, nous sommes donc en guerre les uns contre les autres. Un front de bataille traverse la société tout entière, continuellement et en permanence, et c'est ce front de bataille qui place chacun de nous dans un camp ou dans un autre. Il n'y a pas de sujet neutre, on est forcément l'adversaire de quelqu'un. Une structure binaire traverse la société. Et vous voyez apparaître là quelque chose sur lequel j'essaierai de revenir et qui est très important, à la grande description pyramidale que le Moyen-Âge, où les théories philosophico-politiques donnait du corps social, à cette grande image de l'organisme que, du corps humain que Hobbes donnera, ou encore à l'organisation ternaire en trois ordres, qui vaut pour la France et jusqu'à un certain point pour un certain nombre de pays d'Europe et qui continuera à articuler un certain nombre de discours et en tout cas la majorité des institutions, eh bien, ce discours propose, et propose pas tout à fait pour la première fois, mais pour la première fois avec une articulation historique précise, une conception binaire de la société. Il y a deux groupes, il y a deux catégories d'individus, il y a, à vrai dire, deux armées en présence. Et sous les oublis, les illusions, les mensonges, qui essaient de nous faire croire justement qu'il y a un ordre ternaire, ou qu'il y a une pyramide de subordination, ou qu'il y a un organisme. Sous ces mensonges qui essaient de nous faire croire que le corps social est commandé soit par des nécessités de nature, soit par des exigences fonctionnelles, il faut retrouver la guerre qui continue, la guerre avec ses hasards et ses péripéties. Il faut retrouver la guerre. Pourquoi? Eh bien parce que cette guerre ancienne est une guerre également permanente. Nous avons en effet à être les érudits des batailles, mais nous avons à être les érudits des batailles parce que la guerre n'est pas terminée, que des batailles décisives sont encore en train de se préparer, que la bataille décisive elle-même, eh bien, nous avons à la remporter, c'est-à-dire que les ennemis qui sont en face de nous continuent à nous menacer et nous ne pourrons arriver au terme de la guerre que non pas par quelque chose comme une réconciliation et une pacification, mais que dans la mesure où nous serons effectivement des vainqueurs. Bon, voilà si vous voulez une première caractérisation très floue bien sûr de ce que c'est ce discours. Je crois que même à partir de là, on peut comprendre pourquoi il est important. Je crois qu'il est important parce que il est, me semble-t-il, le premier discours dans la société occidentale depuis le Moyen-Âge, le premier discours que l'on peut dire rigoureusement historico-politique. En quoi est-ce ? Bien, d'abord, à cause de ceci. Vous voyez que le sujet qui parle en ce discours, qui dit « je » ou qui dit « nous », ce sujet ne peut pas, et ne cherche d'ailleurs pas, à occuper la position du juriste ou du philosophe, c'est-à-dire la position du sujet universel, totalisant, neutre. Dans cette lutte générale dont il parle, celui qui parle, celui qui dit la vérité, celui qui raconte l'histoire, celui qui retrouve la mémoire et conjure du sublime, eh bien celui-là, il est forcément d'un côté ou de l'autre. Il est dans la bataille, il a des adversaires, il travaille pour une victoire, et pour une victoire particulière. Bien sûr, sans doute, il tient le discours du droit. Il fait valoir le droit, il le réclame. Mais ce qu'il réclame et ce qu'il fait valoir, ce sont ses droits. C'est nos droits, dit-il. Droits singuliers, droits qui sont fortement marqués par un rapport de propriété, de conquête, de victoire, de nature. Ça sera le droit de sa famille ou de sa race, le droit de sa supériorité ou le droit de l'antériorité. C'est le droit des invasions triomphantes, c'est le droit des occupations récentes ou millénaires. De toute façon, c'est un droit à la fois ancré dans une histoire et décentré par rapport à une universalité juridique. Et si ce sujet qui parle du droit, ou plutôt de ses droits, parle de la vérité, eh bien, cette vérité, ce n'est pas non plus la vérité universelle du philosophe, en ce sens que, c'est vrai que ce discours sur la guerre générale, ce discours qui essaie de déchiffrer la guerre sous la paix, ce discours entreprend bien de dire tel qu'il est, l'ensemble de la bataille, il essaie de restituer le parcours global de la guerre, mais il n'est pas pour autant un discours de la totalité ou de la neutralité, il est toujours un discours de perspective. Il ne vise la totalité qu'en l'entrevoyant, en la traversant, en la transperçant de son propre point de vue, c'est-à-dire que la vérité, c'est une vérité qui ne peut se déployer qu'à partir de sa position de combat, à partir de la victoire cherchée, en quelque sorte, à la limite de la survie même du sujet qui parle. C'est-à-dire que, entre rapport de force et relation de vérité, ce discours établit un lien fondamental, c'est-à-dire encore que l'appartenance de la vérité à la paix, l'appartenance de la vérité à la neutralité, l'appartenance de la vérité à cette position médiane dont Vernon a montré combien elle était constitutive de la philosophie grecque, au moins à partir d'un certain moment, eh bien cette appartenance se dénoue. Dans un discours comme celui-là, d'une part, on dira d'autant mieux la vérité que l'on est dans un camp, c'est l'appartenance à un camp, la position décentrée qui va permettre de déchiffrer la vérité, de dénoncer les illusions et les erreurs par lesquelles on vous fait croire. Les adversaires vous font croire que l'on est dans un monde ordonné et pacifié. Plus je me décentre, plus je vois la vérité. Plus j'accentue le rapport de force, plus je me bats, plus effectivement la vérité va se déployer devant moi. Et dans cette perspective du combat, de la survie ou de la victoire. Et inversement, si le rapport de force délivre la vérité, la vérité, à son tour, va jouer. Et elle n'est finalement cherchée que dans la mesure où elle pourra effectivement devenir une arme dans le rapport de force, où la vérité donne la force, où la vérité déséquilibre, accentue les dissymétries et fait pencher finalement la victoire d'un côté plutôt que de l'autre. La vérité est un plus de force, tout comme elle ne se déploie qu'à partir d'un rapport de force. L'appartenance essentielle de la vérité au rapport de force, à la dissymétrie, au décentrement, au combat, à la guerre, et ainsi même dans ce plein de discours. Cette universalité pacifiée que supposait toujours, depuis, disons, la philosophie grecque, le discours philosophico-juridique, cette universalité, elle est profondément ou mise en question, ou tout simplement, cyniquement, ignorée. On a un discours, et c'est en ceci, je crois, qu'il est historico-politique, on a un discours historiquement ancré et politiquement décentré, un discours politique et historique qui prétend à la vérité et au bon droit à partir d'un rapport de force pour le développement même de ce rapport de force et par conséquent en excluant le sujet qui parle, le sujet qui parle du droit et cherche la vérité, en excluant ce sujet de l'universalité juridico-philosophique. Le rôle de celui qui parle, ce n'est donc pas le rôle du législateur ou du philosophe, entre les camps, personnage de la paix et de l'armistice, en cette position qu'avait rêvé déjà Solon et encore Kant, s'établir entre les adversaires, au centre et au-dessus, imposer une loi générale à chacun et fonder un ordre qui réconcilie, ce n'est pas du tout de cela qu'il s'agit, il s'agit de poser un droit frappé de dissymétrie, une vérité liée à un rapport de force, une vérité arme et un droit singulier. Le sujet qui parle est un sujet, je ne dirais même pas polémique, guerroyant. C'est là, je crois, un des premiers points par lequel ce type-là de discours est important et introduit déchirure, sans doute, dans le discours la vérité et de la loi tel qu'il était tenu depuis des millénaires, enfin plus même. Deuxièmement, c'est un discours, vous le voyez, qui renverse les valeurs, les équilibres, les polarités traditionnelles de l'intelligibilité. C'est un discours qui postule, appelle l'explication par le bas. Mais le bas dans cette explication, ce n'est pas forcément, pour autant, le plus clair et le plus simple. C'est une explication par le bas qui est aussi une explication par le plus confus, le plus obscur, le plus désordonné, le plus voué au hasard. Car ce qui doit valoir comme déchiffrement de la société et de son ordre visible, qu'est-ce qui doit valoir comme principe de déchiffrement ? Eh bien, c'est la confusion de la violence, des passions, des haines, des colères, des rancœurs, des amertumes. C'est aussi l'obscurité des hasards, des contingences, de toutes ces circonstances menues qui font les défaites et assurent les victoires. Ce que ce discours demande, eh bien, il demande au fond aux dieux elliptiques des batailles d'éclairer les longues journées de l'ordre, du travail, de la paix, de la justice. C'est à la fureur de rendre compte du calme de l'ordre. Ceci nous met donc au principe de l'histoire, quoi. D'abord, une série de faits bruts, des faits, si vous voulez, qu'on pourrait dire déjà physico-biologiques, vigueur physique, force, énergie, prolifération d'une race, faiblesse de l'autre, etc. Il met aussi au principe de l'histoire une série de hasards, de contingences en tout cas, des défaites, des victoires, échecs ou réussites des révoltes, succès ou insuccès des conjurations ou des alliances. Il met enfin au principe de l'histoire un faisceau d'éléments psychologiques et moraux, courage, peur, mépris, haine, oublie, etc. Un entrecroisement de corps, de passion et de hasard, c'est cela dans ce discours qui va constituer la trame permanente de l'histoire et des sociétés. Et c'est simplement au-dessus de cette trame de corps, de hasard et de passion, c'est au-dessus de cette masse et de ce grouillement sombre et parfois sanglant que va se bâtir quelque chose de fragile et de superficiel, une rationalité croissante, celle des calculs, celle des stratégies, celle des ruses, celle des procédés techniques pour maintenir la victoire, pour faire taire apparemment la guerre, pour conserver ou renverser le rapport de force. C'est une rationalité donc qui, à mesure qu'on monte et qu'elle se développe, va être au fond de plus en plus abstraite, de plus en plus liée à la fragilité et à l'illusion, de plus en plus liée aussi à la ruse et à la méchanceté. À la ruse et à la méchanceté de ceux qui, ayant pour l'instant la victoire, étant favorisés dans le rapport de domination, ont tout intérêt à ne plus le remettre en jeu. On a donc dans ces schémas d'explication un axe ascendant qui est, je crois, très différent dans les valeurs qu'ils distribuent, très différent de celui que l'on a traditionnellement. On a, si vous voulez, un axe où, à partir d'une irrationalité fondamentale et permanente, l'irrationalité brute et nue, mais où éclate la vérité, on a à la base, partie basse de cet axe, cette irrationalité, et puis, vers les parties hautes, une rationalité fragile, transitoire, toujours compromise, et qui est liée à l'illusion et à la méchanceté. La raison est du côté de la chimère, elle est du côté de la ruse, elle est du côté des méchants. Et de l'autre côté, à l'autre extrémité de l'axe, vous avez une brutalité élémentaire, vous avez l'ensemble des gestes, des actes, des passions, des rages cyniques et nues, vous avez la brutalité, mais la brutalité qui est aussi du côté de la vérité. La vérité va donc être du côté de la déraison et de la brutalité, la raison en revanche du côté de la chimère et de la méchanceté. Tout le contraire par conséquent de ce qui constituait le discours explicatif du droit et de l'histoire jusque-là, cet effort explicatif consistait à dégager une rationalité fondamentale et permanente qui serait par essence liée au juste et au bien, la dégager de tous les hasards superficiels et violents qui sont liés à l'erreur. Renversement donc, je crois, de l'acte explicatif de la loi et de l'histoire. Troisième importance de ce discours que je voudrais un petit peu analyser cette année, troisième importance, c'est que, vous le voyez, c'est un discours qui se développe au fond tout entier dans la dimension historique. C'est une histoire, il se déploie dans une histoire qui n'a pas de bord, qui n'a pas de fin ni de limite. C'est qu'en effet, dans un discours comme celui-là, il ne s'agit pas de prendre la grisaille de l'histoire comme un donné superficiel qu'il faudrait réordonner à quelques principes stables et fondamentaux. Il ne s'agit pas de juger les gouvernements injustes, les abus et les violences, les juger en les référant à un certain schéma idéal qui serait la loi naturelle, la volonté de Dieu, les principes fondamentaux, etc. Il s'agit au contraire de définir, sous les formes du juste tel qu'il est institué, de l'ordonné tel qu'il est imposé, de l'institutionnel tel qu'il règne. Eh bien, il faut découvrir sous donc ce juste, cet ordonné, cet institutionnel, le passé oublié de lutte réelle, de victoires effectives, de défaites qui ont été peut-être masquées, mais qui restent profondément inscrites. Il s'agit de retrouver le sang qui a séché dans les codes. Par conséquent, non pas sous la fugacité de l'histoire, l'absolu du droit, n'ont pas référé la relativité de l'histoire à l'absolu de la loi ou de la vérité, mais sous la stabilité du droit, retrouver l'infini de l'histoire, sous la formule de la loi, retrouver les critères, sous l'équilibre de la justice, la dissymétrie des forces, dans un champ historique qu'on ne peut même pas dire un champ relatif, car il n'est en relation avec aucun absolu, c'est un infini d'histoire qui est en quelque sorte irrelativisé, c'est celui de l'éternelle dissolution. Le problème, c'est bien que ces grandes victoires des géants ont petit à petit été oubliées et recouvertes, qu'il y a eu le crépuscule des dieux, que des héros ont été blessés ou sont morts, et que des rois se sont endormis dans des cavernes inaccessibles. C'est le thème aussi que les droits et les biens de la première race ont été bafoués par des envahisseurs rusés. C'est le thème de la guerre secrète qui se continue. C'est le thème du complot qu'il faut renouer pour ranimer cette guerre et chasser les envahisseurs ou les ennemis. C'est le thème de la fameuse bataille du lendemain matin. La bataille du lendemain qui va enfin retourner les forces et qui, des vaincus séculaires, va faire enfin des vainqueurs, mais des vainqueurs qui ne connaîtront et ne pratiqueront pas le pardon. Et c'est ainsi que, pendant tout le Moyen-Âge, mais tard encore, va relancer sans cesse, lié à ce thème de la guerre perpétuelle, eh bien le grand espoir du jour de la revanche, l'attente de l'empereur des derniers jours, du dux novus, du nouveau chef, du nouveau guide, du nouveau fureur, l'idée de la cinquième monarchie, ou du troisième empire, ou du troisième Reich, celui qui sera à la fois la bête de l'Apocalypse, et le sauveur des pauvres, c'est le retour d'Alexandre perdu dans les veuves, c'est le retour attendu si longtemps en Angleterre d'Édouard le Confesseur, c'est Charlemagne endormi dans son tombeau et qui se réveillera pour ranimer la guerre juste, ce sont les deux Frédéric Barberousse et Frédéric II qui attendent dans leur caverne le réveil de leur peuple et de leur empire, c'est le roi de Portugal perdu dans les sables de l'Afrique et qui reviendra pour une nouvelle bataille, pour une nouvelle guerre et pour une victoire qui sera cette fois définitive. Ce discours de la guerre perpétuelle n'est donc pas, vous le voyez, je crois, seulement l'invention triste de quelques intellectuels qui ont été effectivement longtemps tenus en lisière. Il me semble que par-delà les grands systèmes philosophiques ou juridiques qu'il court-circuite, ce discours joint à, en effet, à un savoir qui est parfois celui d'aristocrates à la dérive, eh bien, les grandes pulsions mythiques et aussi l'ardeur des revanches populaires. En somme, c'est un discours, c'est peut-être le premier discours exclusivement historico-politique de l'Occident par opposition au discours philosophico-juridique. C'est un discours où la vérité fonctionne explicitement comme arme pour une victoire qui est explicitement partisane. C'est un discours sombrement critique, mais c'est aussi un discours intensément mythique. C'est celui des amertumes recuites, mais c'est aussi celui des plus fous espoirs. Ce discours, vous le voyez, il est donc, je le répète encore, étranger par ses éléments fondamentaux à la grande tradition des discours philosophico-juristiques. Pour ce discours des philosophes et des juristes, celui dont je parle est forcément le discours extérieur, étranger, c'est le discours pas même de l'adversaire, car on ne discute pas avec lui, c'est le discours forcément disqualifié, que l'on ne peut que tenir à l'écart, et qu'on doit tenir à l'écart précisément parce qu'il faut, comme un préalable, l'annuler pour que puisse enfin commencer au milieu, entre les adversaires, au-dessus d'eux, comme loi, le discours juste et vrai. Par conséquent, ce discours dont je parle, ce discours partisan, ce discours de la guerre et de l'histoire, eh bien, il va figurer peut-être à l'époque directe sous la forme du discours du sophiste rusé. En tout cas, il sera dénoncé comme celui de l'historien partial et naïf, comme celui du politicien acharné, comme celui de l'aristocrate dépossédé, ou comme le discours fruste qui porte des revendications non élaborées. Or, ce discours, tenu fondamentalement, structurellement, en lisière par celui des philosophes et des juristes, ce discours, donc, il a commencé, je crois, en Occident, sa carrière, ou peut-être une nouvelle carrière, il faudra un peu voir, dans des conditions très précises, entre la fin du XVIe et le milieu du XVIIe siècle, à propos de la double contestation populaire et aristocratique du pouvoir royal. À partir de là, je crois qu'il a considérablement proliféré et que sa surface d'élargissement jusqu'à la fin du 19e, jusqu'au 20e, et cette surface d'élargissement a été considérable et rapide. Mais je voudrais tout de suite dire une chose. C'est ceci. C'est qu'il ne faudrait pas croire que la dialectique puisse fonctionner comme la grande reconversion enfin philosophique de ce discours. La dialectique peut bien apparaître, au premier regard, comme le discours du mouvement universel et historique de la contradiction et de la guerre, mais je crois qu'en fait, elle n'en est pas du tout la validation philosophique du discours dont je parle. Au contraire, il me semble qu'elle a plutôt joué comme la reprise et le déplacement de ces discours dans la vieille forme du discours philosophique ou juridique. Au fond, la dialectique, eh bien, elle codifie la lutte, la guerre et les affrontements dans une logique, une soi-disant logique de la contradiction. Elle les reprend dans le processus double de totalisation et de mise à jour d'une rationalité qui est à la fois finale mais fondamentale et de toute façon irréversible. Enfin, la dialectique assure la constitution à travers l'histoire d'un sujet universel, d'une vérité réconciliée, d'un droit où toutes les particularités auraient enfin leur place ordonnée. La dialectique hegelienne et toutes celles, je pense, qui l'ont suivie, eh bien, doivent être comprises, ça c'est ce que j'essaierai de vous montrer, comme la colonisation par et la pacification autoritaire. Par la philosophie et le droit d'un discours historico-politique qui a été à la fois un constat, une proclamation et une pratique de la guerre sociale, la dialectique a colonisé ce discours historico-politique qui faisait parfois avec éclat, souvent dans la pénombre, parfois dans l'érudition et parfois dans le sang, son chemin pendant des siècles en Europe. La dialectique fait la pacification par l'ordre philosophique et peut-être par l'ordre politique. La dialectique fait la pacification de ce discours amer et partisan de la guerre fondamentale. Eh bien, voilà donc, si vous voulez, l'espèce de cadre de référence générale dans lequel je voudrais me situer cette année, refaire un peu l'histoire de ce discours. Je voudrais maintenant vous dire comment je voudrais mener un petit peu cette étude et par quel point je voudrais passer. Premièrement, et c'est ce que je ferai la semaine prochaine, au moins une partie de l'heure suivante, je voudrais d'abord écarter un certain nombre de fausses paternités qu'on a l'habitude de prêter à ce discours historico-politique, car dès qu'on pense au rapport pouvoir-guerre, pouvoir-rapport de force, aussitôt deux noms viennent à l'esprit, on pense à Machiavel, on pense à Hobbes, je voudrais vous montrer qu'il n'en est rien. Je voudrais vous montrer qu'il n'en est rien, que en fait ce discours historico-politique n'est pas et ne peut pas être celui de la politique du prince, ou celui, bien sûr, de la souveraineté absolue, qu'en fait, c'est un discours qui ne peut considérer le prince que comme une illusion, un instrument ou au mieux un ennemi.
C'est un discours qui, au fond, coupe
la tête du roi. C'est un discours, en tout cas, qui se dispense du souverain et qui le dénonce. Ensuite, après avoir écarté ces fausses paternités, je voudrais vous montrer quel a été le point d'émergence de ce discours, et il me semble donc qu'il faut essayer de le situer du côté du XVIIe siècle, avec ses caractères importants. D'abord, naissance, si vous voulez, double de ce discours, puisque d'un côté, on va le voir émerger vers les années 1730 à peu près, du côté des revendications populaires, ou en tout cas petites bourgeoises, dans l'Angleterre pré-révolutionnaire et révolutionnaire, ça va être le discours des puritains, ça va être le discours des niveleurs, et puis vous allez le trouver, 50 ans après, du côté absolument inverse en un sens, mais toujours discours de lutte contre le roi, vous allez le trouver du côté de l'amertume aristocratique en France à la fin du règne de Louis XIV. Et puis, je crois, et ça c'est là un point important, c'est que dès cette époque-là, c'est-à-dire dès le XVIIe siècle, on voit que cette idée que la guerre constitue la trame ininterrompue de l'histoire, eh bien cette idée apparaît sous une forme précise. La guerre qui se déroule ainsi, sous l'ordre et sous la paix, la guerre qui travaille notre société et la divise sur un mode binaire, eh bien, c'est au fond la guerre des races. Très tôt, on trouve ces éléments fondamentaux qui constituent la possibilité de la guerre et qui assurent son maintien, sa poursuite et son développement. Différences ethniques, différences de langue, différences de force, de vigueur, d'énergie, de violence, différences de sauvagerie et de barbarie, conquête et asservissement d'une race par une autre. Le corps social est au fond articulé sur deux races, eh bien c'est cette idée que la société est de bout en bout parcourue par cet affrontement de race, c'est cette idée que l'on trouve formulée dès le XVIIe siècle et comme matrice de toutes les formes sous lesquelles ensuite on recherchera le visage et les mécanismes de la guerre sociale. Bon, alors à partir de cette théorie des rats, ou plutôt de cette théorie de la guerre des rats, je voudrais alors suivre son histoire sous la Révolution française et surtout au début du XIXe siècle avec Augustin Thierry et Amélie Thierry, bon, et voir comment, à partir de là, elle a subi deux transcriptions, je vous dis. D'une part, une transcription franchement biologique, celle qui s'opère d'ailleurs bien avant Darwin, et qui va emprunter son discours, ou ses éléments, ses concepts, son vocabulaire, à une anatomophysiologie matérialiste, elle va s'appuyer également sur une physiologie, et ça va être la naissance de la théorie des rats, au sens historico-biologique du terme, théorie qui va s'articuler, qui va elle, encore une fois, un peu comme au XVIIe siècle, fort ambigu, elle va s'articuler d'une part sur les mouvements des nationalités européennes en Europe et de la lutte des nationalités contre les grands appareils d'État, essentiellement autrichiens et russes, et vous allez la trouver aussi s'articulant sur la politique de la colonisation européenne. Voilà la première transcription, si vous voulez, biologique de cette théorie de la lutte permanente et de la civilité des rats. Et puis vous trouvez une seconde transcription, c'est celle qui va s'opérer à partir du grand thème de la guerre sociale. Cette guerre sociale, cette théorie de la guerre sociale qui se développe dès les toutes premières années du XIXe siècle et qui va tendre à effacer toutes les traces du conflit de rats pour se définir comme lutte de classe. Et on a donc là une espèce d'embranchement essentiel que j'ai un petit peu de restituer et qui va correspondre à une reprise de l'analyse de ces luttes dans la forme de la dialectique et la reprise de celle des affrontements de race dans la théorie de l'évolutionnisme et de la lutte pour la vie. Et alors, à partir de là, ben, j'essaierai de montrer comment, en suivant, nous avons privilégié
seconde branche, la transcription dans la biologie, vient tout le développement d'un racisme biologico-social, avec cette idée, au fond, et alors là, absolument nouvelle, et qui va faire fonctionner le discours tout autrement, cette idée que l'autre race, au fond, ce n'est pas celle qui est venue d'ailleurs, ce n'est pas celle qui, pour un temps, a triomphé, dominé, mais qu'en fait, l'autre race, c'est celle qui, en permanence, sans cesse, s'infiltre dans le corps social, ou plutôt se recrée en permanence dans le tissu social et à partir de lui, autrement dit, que ce que nous voyons comme polarité, comme cassure binaire dans la société, ce n'est pas l'affrontement de deux races extérieures l'une à l'autre, c'est le dédoublement d'une seule et même race en une sûre et sous-race, ou encore la réapparition à partir d'une race de son propre passé, bref, l'envers et l'en-dessous de la race qui apparaît en elle. Et dès lors, on va avoir cette conséquence fondamentale, c'est que ce discours de la lutte des races, qui est essentiellement un instrument de lutte pour des camps décentrés, au moment où il est apparu, il a commencé à fonctionner au XVIIIe siècle, eh bien ce discours va être recentré et il va devenir justement le discours du pouvoir, le discours du pouvoir centré, centralisé et centralisateur. Ça va être le discours d'un combat qu'il va mener, non pas entre deux races, mais à partir d'une race donnée comme étant la vraie, la seule, celle qui détient le pouvoir et celle qui est titulaire de la norme, contre ceux qui dévient par rapport à cette norme, contre ceux qui constituent autant de dangers pour le patrimoine biologique. Et on va avoir à ce moment-là aussi bien tous les discours biologico-racistes sur la dégénérescence, mais toutes les institutions également, qui, à l'intérieur du corps social, vont faire fonctionner cette fois le discours de la lutte d'une race, vont faire fonctionner comme principe d'élimination, de ségrégation et finalement de normalisation de la société. Dès lors, le discours dont je voudrais dire l'histoire ne sera pas essentiellement articulé sur celui-ci, ne sera pas abandonnera la formulation fondamentale de départ de celle-ci. Nous avons à nous défendre contre nos ennemis parce que, en fait, l'appareil de l'État, la loi, les structures du pouvoir, etc., non seulement ne nous défendent pas contre nos ennemis, mais sont des instruments par lesquels nos ennemis nous poursuivent et nous assujettissent, eh bien ce discours va maintenant disparaître, non pas nous avons à nous défendre contre la société, mais ce sera le discours nous avons à défendre la société contre tous les périls biologiques de cette autre race, de cette sous-race, de cette contre-race que nous sommes en train, malgré nous, de constituer. La thématique raciste va apparaître à ce moment-là, non plus du tout comme instrument de lutte d'un groupe social contre un autre, elle va servir à la stratégie globale des conservatismes sociaux. Apparaît à ce moment-là. Ce qui est un paradoxe par rapport au film même, ou en tout cas à la forme première de ce discours dont je parlais, apparition paradoxale d'un racisme d'État, d'un racisme qu'une société va exercer sur elle-même, sur ses propres éléments, sur ses propres produits, un racisme interne, celui de la purification permanente, qui va être une des dimensions fondamentales de la normalisation sociale. Eh bien, c'est cela, le discours de la lutte et de la lutte des races, que je voudrais, un petit peu parcourir l'histoire. Eh bien, c'est cela, ce discours de la lutte et de la lutte des races que je voudrais parcourir l'histoire à partir du XVIIe siècle et en le menant jusque à l'apparition du racisme d'État au début du XXe siècle en Europe. Voilà.